Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Alors bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour une deuxième émission sur la COP16 qui va s'achever à Cali, en Colombie, ce week-end. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai consacré deux émissions à cette COP16. Ce n'est pas une lubie, mais l'érosion de la biodiversité est sans doute une des causes sur laquelle nous pouvons tous agir dès aujourd'hui. Il est plus facile, par exemple, de changer ses habitudes d'alimentation que de se priver de voiture. Il est plus facile aussi de faire une balade en forêt pour oublier le prix de sa facture d'électricité. Alors, je ne veux pas faire bondir tous les familiers de cette antenne qui agissent contre le réchauffement climatique de toutes leurs forces, mais en nombre, vous ne vous y êtes pas trompés. Vous qui ne renoncez pas à votre voiture tout en sachant le mal causé à la planète, mais qui avez déjà adopté une nourriture locale et de saison. Protéger la biodiversité, faire en sorte que les espèces ne disparaissent pas, nous connaissons tous des recettes qui nous permettent ces actions. Parfois, il est trop tard. C'est ce qui arrive à tous ceux qui ont construit en zone inondable et qui se trouvent aujourd'hui sous les eaux, comme ceux qui continuent d'acheter ou de construire au bord de la mer. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Cali vous semble loin de vos préoccupations et pourtant, c'est là-bas que se gère notre quotidien immédiat, la possibilité de nous nourrir, de nous soigner, quand la Terre sera à 4 degrés. Et pour cela, il faut savoir protéger ce qui fut à la base de notre alimentation ou de nos médicaments, aider ceux qui les ont protégés et leur permettre aujourd'hui de bénéficier de ce que les multinationales de la pharmacie ou de l'agroalimentaire ont engrangé. Les financements restent donc au cœur, comme dans toutes les COP, au cœur des discussions et c'est une pomme de discorde entre les États. La question de la création d'un nouveau fonds spécifique pour la biodiversité est sur le tapis. Elle crée de vives tensions entre les pays du Nord et du Sud pour trouver un accord sur le partage des bénéfices liés au patrimoine génétique des plantes, des animaux et des micro-organismes. Un sujet crucial car ce patrimoine génétique est utilisé par les industriels, pharmacie, cosmétiques, agroalimentaires, et les pays d'origine veulent leur part du gâteau. Comme toujours, il faut trouver un consensus, des principes qui plaisent à tout le monde, les nantis et les pauvres. La semaine dernière, on a un peu évoqué le sujet déjà. Nous allons nous y attarder. Sans argent, on ne voit pas comment les peuples autochtones continueront à protéger ce qui nous permet de manger ou de nous soigner alors qu'ils aspirent eux aussi au développement. Ils sont fatigués de ce qu'ils appellent la biopiraterie, l'appropriation illégitime des ressources de la biodiversité et des connaissances traditionnelles, sans qu'ils ne soient consultés ou n'expriment leur consentement. Ils n'en tirent aucun avantage. En fait, ils estiment avoir été volés, quand les gros labos estiment que cela n'appartenait à personne. Mieux informés aujourd'hui de ce que sont devenues leurs richesses et face aux millions de bénéfices de certains grands groupes, ils demandent que les nations favorisées partagent les bénéfices des ressources biologiques extraites sur leur territoire, utilisées à des fins médicales, agricoles ou industrielles. Écoutons ce qu'en dit un Inuit au Labrador, une habitante de Madagascar ou un scientifique gabonais.
Les Japonais, les Chinois viennent souvent s'interroger sur la façon dont nous utilisons, par exemple, les produits animaux, les produits animaux comme l'ours noir, pour des fins de médecine traditionnelle, pour guérir certaines maladies. Donc, ils s'interrogent la façon dont nous utilisons les produits de l'animal pour nous guérir. Il en est de même, évidemment, pour les plantes qui existent sur notre territoire, qui existent seulement sur notre territoire au Labrador, particulièrement avec le thé du Labrador. Donc, le thé du Labrador est utilisé chez nous pour limiter, entre autres, la progression du cancer. Des gens qui sont atteints de cancer souvent peuvent utiliser soit pour soulager leur souffrance, soit pour diminuer la progression du cancer. Donc, il y a toutes sortes de pratiques donc, qui sont entre les mains qui restent au sein de la nation Innu et qui sont gardées par les anciens de notre nation, de notre peuple, et qui, comme ils transmettent donc de ce savoir traditionnel aux plus jeunes, pour que nous puissions continuer à nous guérir de la façon la plus traditionnelle possible.
Cette histoire de partage des avantages est très importante pour le pays. Ça fait plusieurs années qu'on est là, qu'on est en train de discuter sur comment mettre en place un véritable système qui soit équitable pour les gens, qu'on parle de tout ça, mais on attend toujours.
Ces ressources ont été entretenues depuis des siècles et des siècles par des populations qui ont procédé à une sélection, à une préservation. Et c'est partant de ces savoirs que la plupart des molécules aujourd'hui, des substances utilisées, s'il n'y avait pas ce savoir autochtone, je ne crois pas qu'on en aurait bénéficié.
Sans nécessairement que les personnes donnent leur consentement préalable en toute connaissance de cause par rapport à cette transmission de cette connaissance, de ce savoir. Et par la suite, il y a tout un effet de brevetage, donc une démarche de brevetage, une démarche juridique de brevetage auprès d'Industrie Canada, par exemple, qui gère tous les brevets au Canada.
En 2010, à Nagoya, ce droit a enfin été reconnu. Mais comme nous l'expliquait notre ambassadrice Sylvie Lemay la semaine dernière, il est très difficile de tracer la biopiraterie, car les bouts de génome utilisés par les industriels sont devenus des séquences numériques au cœur du cloud mondial. Il y a une phase où nous avons pu agir, celle des OGM, où l'on prenait un principe actif pour l'insérer et pour modifier le génome d'un autre organisme. Ainsi, rendait-on le maïs résistant au Roundup, un désherbant qui était utilisé à grande échelle. La semence ainsi modifiée n'appartenait au labo qui l'avait produite, en l'occurrence Monsanto, et non aux paysans. Aujourd'hui, les nouvelles pratiques d'amélioration génétique des plantes, et plus spécifiquement le CRISPR-Cas9, une technologie de modification génétique révolutionnaire, permet de cibler et d'éditer précisément l'ADN dans les cellules. Cette technique permet par exemple de renforcer les résistances aux maladies, d'accélérer des processus d'amélioration ou encore de domestication, alors que le réchauffement est de plus en plus prégnant, l'industrie alimentaire devient, elle, veut connaître et est intéressée par la sélection des variétés agricoles adaptées aux conditions extrêmes de chaleur ou d'humidité. Et c'est valable pour nos légumes, nos cultures, comme pour nos forêts. C'est donc au sud que s'écrit aujourd'hui l'avenir du Nord. On y cherche le secret de l'adaptation des plantes aux stress environnementaux. Deux sites, par exemple, permettent ces recherches à la France. Et comme par hasard, ils sont tous deux au Sénégal, à Dakar et à Thiès. Les régions désertiques, les zones vierges, comme l'Amazonie, ont été entièrement prises en charge par les communautés autochtones. Par conséquent, les peuples autochtones et les communautés locales jouent un rôle clé dans la préservation de la diversité biologique. Les bioressources que l'on retrouve dans les pays riches, les graines, les plantes, les animaux et même les composés chimiques, ont longtemps été des ressources naturelles extraites durant la colonisation lorsque les empires pillaient les territoires qu'ils occupaient. Il n'y a pas que la molécule qui nous intéresse. Les savoirs traditionnels des communautés sont généralement fondés sur l'expérience clinique de générations de tradipraticiens. Ils fournissent des indications thérapeutiques précieuses au laboratoire pharmaceutique. Il ne suffit pas de cueillir une plante, une feuille. Il faut savoir la préparer, l'utiliser au bon moment. Et ce sont des savoirs médicaux qui, ensuite, ont été modernisés. Mais parce qu'on a suivi des tradipraticiens et qu'on a copié leurs gestes. Grâce à une sélection rigoureuse des caractéristiques des plantes et à l'interaction avec leur écosystème dans lequel elles vivent, les communautés autochtones et locales ont largement contribué donc non seulement à la qualité, mais aussi à la quantité de la diversité biologique dans leur territoire. Et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Un reportage en Guadeloupe nous a permis de constater que 653 plantes avaient été répertoriées par les Guadeloupéens. Et le réseau des scientifiques locaux, Tramil, en a sélectionné 350. En suivant ces plantes, on comprend que les populations locales puissent en tirer des bénéfices à condition d'en avoir les moyens.
Mais là, je fais une extraction d'huile à partir de l'amande de la graine de galba. Et cette amande est très riche en une huile. Cette huile a des vertus calmantes, cicatrisantes, adoucissantes pour la peau et également pour les cheveux.
Professeur de chimie, Paul Bourgeois crée en 2005 le laboratoire Phytobocas. Avec Henri Joseph, il se lance dans la transformation des plantes en cosmétiques et produits alimentaires.
Les plantes étaient là, elles étaient utilisées de manière directe pour faire des tisanes, pour faire des décoctions ou pour faire des onguents pour se frotter. Nous, avec l'expérience que nous avions préalable et les compétences que nous avons, nous avons estimé qu'on pouvait avoir une démarche de production, de façon à ce que ça devienne, si vous voulez, une affaire économique.
Gel relaxant à base de gommier, sirop fortifiant d'herbe à pic, poudre de banane, facilitant la digestion, les produits commercialisés par le laboratoire s'orientent vers des soins de médecine préventive et de bien-être.
Alors pour l'instant, on ne peut pas considérer que nous fabriquons des médicaments. C'est un produit de santé qui va vous donner un coup de fouet, qui va renforcer les défenses de l'organisme, qui va vous permettre de lutter contre le stress, mais on n'a pas la prétention, disons, de vendre des médicaments, parce que nos produits, on ne les a pas soumis à la législation du médicament. Mais rien ne dit que dans un avenir, qui peut être d'ailleurs assez proche, on ne va pas, pour un ou deux produits, se lancer dans cette procédure. L'usage populaire des plantes médicinales, maintenant, n'est pas ce qu'elle était il y a 100 ans ou il y a même 50 ans. Ma grand-mère utilisait ça, mais moi, je ne sais pas trop, je ne vais pas l'utiliser. Et quand on leur propose des produits fabriqués dans les conditions strictes, à ce moment-là, ils ont toutes les garanties. Ils ont toutes les garanties qu'ils auraient avec des médicaments ou des produits cosmétiques ou des produits bien-être qui viendraient de métropole ou d'ailleurs.
Exploiter les richesses locales tout en donnant un maximum de garanties, c'est ce qu'a toujours fait Armand Périanin. Depuis près de 30 ans, cet agriculteur de Petit Bourg cultive une racine ancestrale, la dictame. Naturellement riche en amidon et très digeste, la dictame est traditionnellement utilisée dans l'alimentation des plus jeunes.
C'est une production en perdition, c'est une culture patrimoniale qui fait partie du patrimoine de la Guadeloupe, au même titre que café, cacao, vanille, manioc. Et c'était la base de l'alimentation des nourrissons avant l'apparition des farines lactées. Donc les populations de la Guadeloupe avaient toujours dans leur jardin créole une parcelle de dictame pour nourrir leur population.
Utilisée dans la préparation de boissons ou de crèmes, la fécule de dictame broyée s'accorde parfaitement au régime des individus fragiles, comme les personnes âgées et les nourrissons.
Et moi, j'ai décidé, lorsque j'aurai mon premier-né, de l'alimenter avec la dictame. Nous avons commencé par un jardin créole au départ. Et au fur et à mesure qu'on avait de la demande, on augmentait les surfaces. Et aujourd'hui, nous avons 2 hectares et nous pouvons produire près de 5 tonnes de farine de dictame par an. Je le vends comme produit alimentaire, non pas comme un médicament. Donc on ne peut pas m'empêcher de le vendre.
Thank you.
Il y a une dizaine d'années, de grands désaccords en sont venus jusqu'aux tribunaux. Ce ne sont malheureusement pas les grandes firmes qui se sont retrouvées sur le banc des accusés, mais des laboratoires de recherche qui auraient dû défendre le bien commun. Payer pour la protection est donc aujourd'hui acquis. Mais que va-t-on payer ? Donner un prix aux vivants est difficile. Pour leur part, les firmes impliquées dans l'industrie de la bioprotection estiment que reconnaître le paiement, pour leur part, les firmes, allez, 1, 2, 3. Pour leur part, les firmes impliquées dans l'industrie de la bioprotection estiment que reconnaître le consentement préalable et le partage des avantages relèvent d'un contrat de commerce international avec les autorités nationales compétentes. Mais aux yeux des communautés autochtones et locales, les ressources génétiques et les savoirs associés ne représentent pas qu'un simple patrimoine au sens économique du terme. Ils incarnent surtout leur mode de vie, leur tradition, leur spiritualité, et c'est tout cela qui est en cause à Cali. Le Brésil et l'Afrique souhaitent des paiements obligatoires, idéalement à hauteur de 1% des bénéfices. L'Union européenne, la Suisse, le Japon, les États-Unis sont catégoriques et veulent des paiements volontaires, contractuels. Ils disent que cela suffit. À ce débat s'en ajoute un second. Où va-t-on verser l'argent ? Actuellement, il y a un fonds, le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial. Mais certains pays n'en veulent plus, parce que cette banque est trop difficile d'accès et paie trop lentement. Ils veulent créer un fonds accessible qui leur permette de protéger plus facilement. Et il faut malheureusement aussi pouvoir garantir que 20% de cet argent va être consacré aux recherches de paiement et aux recherches sur le terrain. Les compromis restent donc à trouver. Les groupes autochtones représentant les 9 bassins amazoniens se sont même réunis et ont officiellement lancé le G9, un groupe qui a pour objectif de s'unir pour trouver des solutions communes aux obstacles communs. Il a envie de devenir une véritable force, un véritable rapport de force. Lors de la COP30 sur le climat au Brésil l'année prochaine. De plus en plus, les communautés pillées s'organisent. Mais pour cela, il faut créer du droit. Il faut donc aussi que leur État soit d'accord. Et peu encore l'ont fait. On peut citer le Pérou ou l'Inde, qui a créé une bibliothèque des savoirs autochtones grâce à l'influence de la grande chercheuse écologiste Vandana Shiva. Finalement, c'est assez simple. On crée la liste des plantes traditionnelles et quand un labo dépose un brevet, on regarde dans cette liste si la plante avait été inscrite avant le dépôt du brevet. Eh bien, il a fallu 3 millions pour faire cette banque, comme il faut de l'argent pour créer un labo. On comprend donc pourquoi ce point soulève des passions. Dossier inachevé à Cali, celui du financement et de la stratégie des États pour la protection de la biodiversité. Nous quittons cette fois les peuples autochtones. Les États s'étaient quittés à Montréal en se promettant de proposer une protection sérieuse de 30% des terres et des mers pour 2030. Alors pourquoi 30%?
Parce que c'est à la fois très ambitieux et c'est un minimum si on veut que les espèces se maintiennent et puissent se reproduire sereinement. À ce jour, les trois quarts de la planète sont déjà altérés par les activités humaines. En clair, l'humain est partout et perturbe partout la vie de la faune. À l'heure actuelle, les aires protégées ne représentent qu'un peu plus de 15% des terres et un peu plus de 8% des mers. Vous voyez qu'on est bien loin des 30% que l'on devrait protéger d'ici 5 ans seulement. Et on a un autre souci, choisir la pertinence des surfaces protégées pour enrayer la sixième extinction de masse. Il faut que ces zones soient importantes pour la biodiversité. Regardez, en juin dernier, dans la revue Frontiers in Science, des scientifiques ont dressé une liste des zones à conserver en priorité, en tout premier, avant d'atteindre ces 30%. Ces zones, elles ont été choisies par ces spécialistes parce qu'elles ne bénéficient pour l'instant d'aucun statut de protection et qu'elles abritent une faune et une flore à risque imminent d'extinction. Leur surface est relativement réduite, c'est seulement 164 millions d'hectares, soit 1,2% de la surface terrestre. Mais problème, ces zones sont en très grande partie localisées dans les zones tropicales.
Et pourquoi c'est un problème, Audrey ?
Eh bien, c'est un problème parce que 5 pays seulement concentrent la majeure partie de ces zones précieuses. Les Philippines, le Brésil, l'Indonésie, Madagascar et la Colombie, qui abritent donc cette COP16. Et on ne peut pas laisser à ces 5 pays seuls la responsabilité logistique et financière de protéger ces espaces. On va revenir à l'article. L'une des premières choses que font les scientifiques, c'est de chiffrer l'effort financier à fournir pour protéger ces aires qu'ils ont identifiées. C'est vraiment dans les toutes premières lignes de l'article. Selon eux, cela coûterait 169 milliards de dollars. Selon l'accord de Kunming-Montréal de 2022, les États s'engageaient à mobiliser 200 milliards de dollars par an d'ici 2030. Donc vous voyez qu'en un an de financement, si on les atteint, c'est possible donc de mettre en œuvre ces mesures de protection d'urgence. Ces zones que les pays, concernés vont devoir préserver, eh bien, ils ne pourront pas les exploiter. On a vu le problème que cela posait notamment avec la question de la forêt du bassin du Congo, dont vous voyez quelques images, qui est très importante pour l'humanité. Les pays qu'elle recouvre aimeraient profiter de ces richesses, mais il est important que cette forêt reste en bonne santé, non surexploitée. Conservation internationale insiste pour qu'on préserve des hotspots de biodiversité. Alors vous allez me dire, Florent, qu'est-ce que c'est des hotspots de biodiversité ?
Mais qu'est-ce que c'est que des hotspots de biodiversité ?
Eh bien justement, c'est une zone qui possède une grande biodiversité, particulièrement menacée par l'activité humaine. Vous en voyez une carte, il y en a 36 à travers le monde. Et encore une fois, ils sont localisés en majorité, vous le voyez, dans la zone tropicale. Je vous l'ai dit, ce classement en hotspot, il se fait selon deux critères. La richesse de la biodiversité et la menace pour la biodiversité. Et du coup, il y a des critiques sur ce classement. Parce que si l'Amazonie est évidemment classée comme hotspot, la forêt du Congo, non, parce qu'elle n'est pas encore assez abîmée. On est donc face à un grand défi, répondre aux urgences et en même temps conserver ce qui est encore intact sur la planète. Et il va falloir mener les deux de front parce qu'on s'y prend un petit peu tard. Au-delà de ces 30% des terres et des mers à protéger, d'ici 2030, il faudra penser à ne pas trop abîmer également les 70% restants. Parce que ces aires ne sont pas imperméables. Les produits chimiques issus de l'agriculture migrent, par exemple, dans l'environnement. Et puis, si on veut sauver 85% de la biodiversité marine et terrestre, il faudrait, selon le biologiste américain Edward Wilson, protéger 50% de la planète. Mais cet objectif n'était pas réaliste pour 2030, donc on a fixé pour l'instant à 30%, mais vous voyez bien que 2030, ce n'est pas la ligne d'arrivée, on est seulement à mi-chemin.
Donc, comme Audrey Racine vient de nous l'expliquer depuis Cali au micro de France 24, la situation n'est pas simple. Et jusqu'à présent, 35 pays seulement ont écrit leur stratégie pour y parvenir. C'est trop peu. Heureusement, 2642 objectifs nationaux ont été soumis. Ils devraient s'organiser, être étudiés. Et pour les pays en développement, stratégie et financement sont bien sûr liés. Comment faire des inventaires, établir un droit national sans moyens. L'IPBES va publier deux rapports inédits qui se focaliseront sur les solutions. Parce qu'effectivement, actuellement, on est en train de chercher des solutions qui pourraient à la fois satisfaire le travail sur l'adaptation au changement climatique et en même temps la protection de la biodiversité. Je vais vous donner un exemple. Le soleil, le vent ne seront jamais des problèmes environnementaux. Ils ne produisent ni déchets, ni problèmes à gérer dans l'avenir. Par contre, aujourd'hui, on essaye de faire de l'électricité, enfin, ou de produire de l'énergie à partir de la biomasse. Mais qui dit biomasse dit utilisation de déchets verts. Déchets verts qui ne retournent pas donc dans les sols et qui ne les amendent pas. Ou déchets verts qui viennent de nos forêts, qu'il faut donc cultiver en fonction de ce besoin. On s'aperçoit que là, on a un problème réel entre problème climatique et problème de biodiversité. Donc, sur ces diverses crises, les organismes vont essayer de s'entendre au fil des ans. Le problème, c'est qu'ils s'y mettent un peu tard et que toujours, on a ce problème de temps. Donc, parmi les deux rapports que l'IPBES va fournir, le premier portera sur des réponses à privilégier pour lutter contre les différentes crises, celles de la biodiversité, de l'eau, de la santé, de l'alimentation, du climat, et le second sur les obstacles à lever pour passer à l'action. Ce sera sans doute un moment aussi charnière que l'a été la publication en 2019 de la première évaluation sur l'état de la biodiversité dans le monde. Les 17 et 18 décembre, cette plateforme IPBES, aussi appelée le GIEC de la biodiversité, donnera ces deux rapports. Donc Nexus nous permettra d'analyser les interdépendances entre cinq éléments dont nous venons de parler et à nous montrer que les impacts négatifs et positifs qu'il y a à agir sur un seul de ces éléments peut être important. S'appuyant sur environ 6500 références, il a été préparé par 165 experts, le groupe le plus important jamais mobilisé au sein de l'IPBES, y compris pour l'évaluation de 2019. Ce sera la première synthèse mondiale approfondie sur les interconnexions entre ces cinq crises. Le rapport permet par exemple de montrer que certaines solutions technologiques pour atténuer un peu le changement climatique vont être globalement perdantes pour la planète. Et pour la première fois, les solutions proposées par les uns seront évaluées par les autres. La semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec BioUV, une société qui a trouvé le moyen de rendre viable le recyclage des eaux usées. Alors qu'elle réussit dans de nombreux pays du monde, en France, des obstacles restent dressés à cette utilisation. Et nous essaierons de faire le point et de comprendre ces obstacles. Bon week-end à vous et portez-vous bien.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.